Du 2 au 4 juillet 2024 s'est déroulé le Forum ouvert des usages coopératifs à Brest. Pour cette 11e édition, organisée par le service médiation et usage numérique de la ville de Brest, c'est sous le thème des pas de côté que les participants et participantes ont abordé différentes manières de coopérer sur des sujets d'actualité et de société. Rencontres, échanges, forums ouverts, conférences ou encore ateliers, Radio U a suivi plusieurs acteurs et actrices qui ont fait vivre ces journées.
Bonjour, donc je suis Didier Poulazan. Je suis présent au Forum des usages coopératifs au titre de ma fonction actuelle en tant que chargé de mission sécurité et prévention de la délinquance à l'Association des maires de France et en étant représentant de la police nationale.
Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes relations avec le Forum des usages coopératifs ?
Alors, je connais le Forum des usages coopératifs depuis 10 ans. À l'époque, j'étais en détachement de la police nationale en tant que directeur de prévention sécurité. Et j'avais eu l'occasion de travailler justement déjà à l'époque sur le pas de côté, puisque en étant en formation initiale de directeur de police municipale, j'avais travaillé sur un sujet qui était donc le directeur de police municipale et la coproduction éducative. Le directeur de police municipale n'est pas partie prenante à titre principal de l'éducation des jeunes, mais par contre, dans la coproduction éducative, on peut justement imaginer qu'il est contributeur de tout ce qui permet ensuite de permettre l'intégration sociale d'un jeune et ne pas focaliser seulement sur l'enjeu de la prévention de la délinquance.
Alors, tu as animé un atelier, c'était mercredi, qui s'appelle Territoire d'activation sociale coopérative. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi il consistait ? Le terme est relativement vague, je trouve. Donc.
C'est vrai que quand on définit le sigle, il est assez vague. Maintenant, quand on parle de task, on peut très vite comprendre le jeu de mots avec la task force. L'idée est de mobiliser toutes les personnes qui sont concernées par un territoire donné. Donc ça peut être bien sûr les habitants et surtout les habitants, mais c'est aussi les usagers. Ce sont aussi bien évidemment les personnes qui travaillent pour ce territoire en fonction publique, territoriale, hospitalière et de l'État. Et puis aussi, ça peut être les entreprises. Et donc, encore une fois, tous ceux qui sont concernés. À partir de là, l'enjeu derrière, c'est de mobiliser ces acteurs pour pouvoir optimiser la résilience territoriale de telle manière que justement, dans un contexte de changement climatique, mais aussi de risques ou de menaces, le cas échéant, en étant concerné par des enjeux de radicalisation, comment on fait justement pour que ce territoire devienne résilient ?
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs et auditrices justement quelle est la définition en fait de la résilience ?
Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de résilience et c'est un petit peu devenu, si j'ose dire, le terme un peu tarte à la crème. Donc du coup, il faut se poser et puis à un moment donné, définir une définition qui correspond le mieux à cette époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc pour ma part, je retiens une définition qui me semble la plus appropriée puisqu'elle fait le lien en plus avec la robustesse. Dans mon cas, c'est la résilience est un peu un champ socio-écologique qui permet de développer la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un environnement fluctuant. De ce point de vue-là, on voit bien les liens avec la robustesse. Pour ce qui est de la robustesse, le parallèle est fait puisque c'est la capacité à se maintenir stable sur le court terme et viable sur le long terme malgré les fluctuations. Donc on voit bien que dans un environnement mouvant, et on sait qu'aujourd'hui malheureusement c'est un peu notre lot quotidien, il faut pouvoir s'adapter en permanence.
Tu parles beaucoup de territoire, comment est-ce que justement on arrive à prendre en compte ce territoire ? Qu'est-ce qu'on regarde ?
Ouais, merci pour cette question. Le paradoxe, il est là, c'est que le territoire, on y vit, mais est-ce qu'on le regarde ? Et je crois que tout l'enjeu est là, c'est qu'à un moment donné, on puisse trouver la capacité de se poser et de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je fais sur ce territoire ? À quoi je contribue pour permettre à ce territoire d'être résilient à mon niveau ? Et en quoi, lorsque j'interagis avec quelqu'un sur un enjeu qui est commun, mais qui avait fait qu'on n'en avait jamais parlé ensemble, on se rend compte qu'en créant du lien, on peut peut-être réussir à être plus fort pour traiter de cette problématique ensemble.
Comment est-ce que ça se manifeste concrètement ? Comment est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des réunions justement entre personnes pour réfléchir à ces sujets ?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'initiatives. Cynthia Fleury, qui est assez connue en tant que philosophe pour donc parler en philosophie de différents sujets sociétaux importants, disait notre territoire français de façon générale est atone donc dans sa pensée, je dirais, ou dans son action globale, et en même temps pleine d'énergie au niveau des actions locales. Et je crois que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de choses sont faites dans ce domaine-là. Par contre, l'enjeu aujourd'hui, justement, c'est de passer à l'échelle, c'est de réussir à à nénuphariser donc des actions qui existent au niveau du territoire. J'ai rencontré ici Marie-Hélène Pillot qui travaille justement sur les mêmes sujets que moi, je ne la connaissais pas avant, et elle le fait concrètement sur des terrains. Et elle organise des réunions où on apprend sur les territoires avec les mairies, avec les acteurs territoriaux, avec les habitants à travailler ensemble. Ça se fait. Pour ma part, je connais des initiatives avec une association qui s'appelle Médiation Nomade, qui pose un camping-car avec une table et du thé dans des quartiers dits sensibles et qui restaure le dialogue avec de la musique, avec du thé, avec des jeux et qui permettent par ce média, c'est de la médiation sociale, à faire discuter sur des problématiques plus complexes. Donc, d'entrée de jeu, il faut forcément créer du lien et ça se passe au niveau des territoires.
On parle de territoire. Quelle est l'échelle justement de ces territoires? Est-ce qu'on va être juste sur un quartier, une commune ou est-ce qu'on peut voir même plus grand?
Je crois que là, par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui en termes de transformation d'un monde globalisé, l'idée c'est de renverser complètement le paradigme. Il faut partir du plus petit dénominateur commun, c'est là où je vis. C'est là où je vis moi. Donc la réponse à la question, c'est où est-ce que je vis, où est-ce que je suis usagé, où est-ce que j'ai un intérêt à agir parce que j'ai envie de donner quelque chose, de contribuer. Et donc oui, la réponse, c'est mon quartier. Et ensuite, en quoi, au-delà d'une limite imperméable, on est sur une logique de membrane, c'est-à-dire de connexion entre les périmètres, de vie entre les périmètres, pour que par capillarité, par épissure, le fait de recréer du lien social, épissure c'est un terme marin qui dit je recrée du lien d'une corde coupée. En clair, on n'est pas du tout sur le fait de couper, on est vraiment sur le fait de tisser.
Alors le thème cette année du forum, ce sont les pas de côté. Est-ce que toi, tu aurais une définition des pas de côté et comment est-ce que tu arrives à intégrer ça, toi, dans l'atelier que tu as fait notamment?
Mais j'y ai beaucoup réfléchi, effectivement. Je crois que le pas de côté, ça consiste déjà, premièrement, à trouver une distanciation avec soi-même. Et ce n'est pas le plus facile. Du coup, l'idée du pas de côté, c'est aussi finalement d'avoir un effet miroir avec l'autre, c'est-à-dire confronter à l'autre en quoi mon pas de côté et son pas de côté à lui font qu'on est capable ensuite de marcher dans la même direction. Et ça peut être constitutif du tissage de lien dont je parlais tout à l'heure. Et donc, de ce point de vue-là, une fois qu'on est capable d'avoir fait ça, je crois que c'est le début justement de quelque chose d'interréflexif. C'est-à-dire, l'autre finalement, et c'est une garantie de l'intelligence collective, l'autre me renvoie peut-être à mes propres incohérences. Et si on fait seulement le pas de côté pour soi-même, on peut se tromper de bonne foi. Et comment on fait justement pour qu'on crée ensemble, et là dans une intelligence collective, qui justement fait apparaître le meilleur de chacun de nous grâce au regard de l'autre.
Pour terminer, est-ce que tu aurais un message à passer aux auditeurs et aux auditrices de Radio U?
Le message, il est à mon avis simple, à la fois singulier puisque j'en parle et universel, c'est dans quelle mesure je suis capable au quotidien d'être en posture éthique pour moi-même, avec les autres, et puis être dans cette logique de congruence où quand on voit aujourd'hui à quel point beaucoup mentent et se mentent et mentent aux autres, on doit être dans une logique de capacité de se regarder dans une glace et voir si dans cette congruence on est bien en phase entre donc son cerveau, son cœur et son corps. Et là, on peut agir, à mon avis, pour le bien commun.